Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Léa Sabourin, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée ce matin par Benjamin Hu et mise en onde par Jordan Fuentes. Deuxième temps de notre série consacrée à l'Iran. Hier, nous discutions du système politique iranien, de ses évolutions. Demain, nous nous intéresserons au fossé qui se creuse entre la sphère publique et la sphère privée. Jeudi, enfin, nous discuterons de la politique étrangère de Téhéran. Mais aujourd'hui, place à l'économie. Iran, un système économique à bout de souffle. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
J'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retireront de l'accord nucléaire iranien. Nous allons mettre en place contre l'Iran les sanctions économiques les plus sévères.
Si ça continue avec ces sanctions, nous n'aurons jamais une vie meilleure dans le futur. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre et j'espère que le gouvernement va penser au peuple.
Avec ces nouvelles sanctions, la situation économique va être encore plus difficile pour les Iraniens. Personne n'est satisfait actuellement. L'Iran était un exemple auparavant. L'Iran et ses dettes comme les autres pays, mais la situation économique est catastrophique.
À l'été 2015, l'accord sur le nucléaire iranien annonçait une ère nouvelle en matière de diplomatie, mais surtout de croissance économique pour Téhéran. Mais la décision de Donald Trump de s'en retirer en mai dernier a provoqué le rétablissement progressif des sanctions qui ont porté un coup très dur à une économie déjà fragile. Aujourd'hui, la monnaie nationale s'effondre, les prix s'envolent, les pénuries menacent et le système social déraille. Bref, l'économie iranienne semble au bord de l'implosion. Alors, quelle est la situation économique et sociale aujourd'hui? Quels sont les effets des sanctions? Les fragilités de l'économie de la République islamique sont-elles seulement le fait des sanctions précisément, ou faut-il également incriminer les responsables politiques iraniens qui n'auraient peut-être pas conduit les affaires économiques de sorte à assurer la prospérité du pays et du plus grand nombre? Quels sont de façon générale les gagnants et les perdants du système économique mis en place depuis la révolution en 1979? Autant de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord, Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sociologie à Paris 7 Diderot, auteur de très nombreux ouvrages. Je vais en annoncer un qui va paraître dans quelques semaines, c'est « Femmes et pouvoir en islam », ça sera chez Michalon. Et puis également pour les auditeurs, dans la revue « Les cahiers de l'Orient, des revendications nationalistes à une pluralité libre agissant ». À nos côtés également, Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes, vous, économiste, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur, vous, notamment d'un numéro de la revue internationale des études du développement, l'économie politique de la République d'Iran. Merci à tous les deux d'être là. D'abord, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un ayatollah assez influent qui s'appelle Mohamed Yazdi, qui est membre du Conseil des gardiens du pays, qui a affirmé que lors de ces 40 dernières années, l'Iran avait davantage progressé qu'au cours des 4 derniers siècles. Sur les 4 dernières décennies, nous avons eu l'équivalent de 400 ans de croissance et de progrès. Voilà ce qu'il a dit. Si on regarde un peu les performances économiques de l'Iran depuis la révolution de 79 et qu'on s'intéresse aux principaux indices économiques, et je vais peut-être me tourner d'abord vers vous me permettrez, l'économiste Thierry Coville, quand on regarde les principaux indices économiques, le PIB, le niveau de croissance, le taux de chômage, le coefficient de Gini aussi qui mesure les inégalités, la répartition des richesses dans un pays. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de 40 ans après la révolution? Est-ce qu'effectivement la dynamique dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays est meilleure que celle dans laquelle elle se trouvait juste avant la révolution? Est-ce que finalement l'ayatollah Mohamed Yazdi a raison?
Non, je pense que il a tort, mais je pense qu'il... C'est difficile de répondre complètement à cette question. Il y a des éléments sur lesquels l'Iran a progressé. Bon, très clairement... L'exemple qui est très parlant, c'est que je pense qu'en termes de PIB par habitant, l'Iran était pas loin de la Corée du Sud dans les années 60, quand les deux pays, si vous voulez, commencent leur démarrage économique. Je pense qu'il y a un critère qui est très important pour l'Iran et pour la Corée du Sud, c'est la capacité à ces deux pays à devenir compétitifs dans le reste du monde, ce qui concerne tout ce qui est produits manufacturés. Or, quand on regarde la Corée du Sud aujourd'hui, qui est quand même un des principaux exportateurs de produits manufacturés du monde, qui est maintenant, je crois, rentré dans l'OCDE, qui fait partie des pays riches. Et quand on regarde l'Iran, qui reste extraordinairement dépendant du pétrole, à 80% des exportations d'Iran, c'est du pétrole. On voit qu'il y a un pays qui effectivement est devenu moderne sur le plan industriel, un pays qui reste, si on prend le critère de la dépendance pétrolière, un pays qui reste comme un pays en voie de développement. Par contre, dans d'autres domaines, il faut aussi, pour complexifier, on va dire, rendre le tableau plus complet, il y a des domaines où l'Iran a progressé. Je pense que si on regarde les indicateurs, hein, l'extrême pauvreté qui existait avant la révolution, elle est moindre maintenant, après les indicateurs. Et sur le plan de tout ce qui est infrastructure, transport, adduction d'eau, notamment ce qui se passe dans les campagnes, on va dire, il y a eu beaucoup d'efforts faits depuis la révolution de ce point de vue-là.
Azad Ekiran, l'un des éléments qui se trouvait vraiment au cœur du discours révolutionnaire, c'était la lutte contre les inégalités. Il y avait cette volonté affichée de lutter contre les inégalités, d'arrêter ce système qui permettait à une poignée de s'enrichir pendant que la majorité s'appauvrissait. Le bilan de cette révolution sur le plan des inégalités, est-ce qu'elles ont reculé en 40 ans?
Écoutez, selon les décideurs iraniens eux-mêmes, à la fois le président Khatami, mais aussi d'autres, suite à Khatami, les inégalités entre les Iraniens n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui, dans le sens où vous avez une minorité infime de la population, souvent au pouvoir ou proche du pouvoir, qui a bénéficié de la manne pétrolière et donc qui s'est enrichie considérablement, et la majorité de la population, y compris les classes moyennes, qui n'ont pas profité de la manne pétrolière, et donc les écarts se sont aggravés, se sont grandis entre les très riches, les très pauvres, voire même les classes moyennes qui ont continué, surtout ces dernières années, à perdre leur pouvoir d'achat, puisque quand vous êtes salarié, eh bien déjà il faut avoir plusieurs emplois, deux voire trois, pour essayer de survivre. Ça, j'ai vu souvent en Iran, y compris d'ailleurs les fonctionnaires de l'État. Et on constate que selon le Centre de statistiques d'Iran, le taux d'inflation depuis l'année dernière a augmenté par 47% en moyenne. Donc ce qui fait que, alors que les salaires bien évidemment n'ont pas augmenté autant, cette pauvreté qui est ressentie de façon inadmissible par la majorité des Iraniens, parce que en face ils voient aussi une minorité qui s'est enrichie. Mais en revanche, je voudrais quand même revenir à la question. Je suis d'accord avec Thierry Coville, et je voudrais dire qu'en termes d'indicateurs de développement humain, bien sûr que l'Iran a beaucoup progressé depuis avant la révolution en termes de taux d'éducation, par exemple, l'instruction de la population en général, les femmes en particulier, le nombre des étudiants, il y en a pas loin de 5 millions aujourd'hui dans les universités iraniennes, par exemple. Dans les villes, dans les villages, il y a presque 100% d'eau potable et d'électricité, ce qui n'était pas le cas avant la révolution. Donc, effectivement, en termes d'indicateurs de développement humain, le pays a progressé, ça, il n'y a pas de doute, mais en même temps, la question est de savoir si c'est grâce au régime islamique et de toute façon, tous les pays de la région, regardez la Turquie, qui ont progressé de façon exponentielle.
On a quasi une heure pour évidemment essayer de répondre un peu à cette question. On va bien sûr revenir sur la question des sanctions qui est absolument centrale, mais d'abord, je voudrais qu'on commence par le début et qu'on fasse un tout petit peu de perspective historique, Thierry Coville, et qu'on revienne au moment de la révolution de 79. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en termes de politique économique? Quelles sont les premières décisions, les premiers choix politiques qui sont faits, les plus notables, et quels effets vont-ils avoir? Avant de se pencher sur évidemment les sanctions qui sont très importantes, mais on en parle très souvent, revenons à 79. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du point de vue économique?
Oui, alors c'est vrai que... c'est une révolution, donc.
Est-ce que c'est une révolution économique?
Alors justement, effectivement, ce qui est intéressant dans le cadre de la révolution iranienne, c'est que c'est ça qui, à mon avis, traverse le système politique iranien, parce que la question des inégalités, de lutter pour les déshérités, etc., c'était très important au moment de la révolution. Il y avait cette idée qu'avant le système était inégalitaire, on va conduire cette fameuse société religieuse où tout le monde sera égal, etc. Et donc, moi, je pense pas. Bon, justement, je voudrais dire, je pense pas que les inégalités. L'Iran n'est pas le pays le plus inégalitaire du monde, indicateur de Gini, je vais rentrer dans les détails, je pense qu'il faudrait vérifier, mais il est sans doute élevé en Iran par rapport au reste de la région, mais il y a des pays beaucoup plus inégalitaires que l'Iran. Par contre, la perception, et c'est là où c'est intéressant, et même des hommes politiques en Iran, est que, voilà, le système ne marche pas, et je pense que c'est lié à cette... ça traduit aussi un manque de confiance dans les institutions publiques iraniennes qui est au cœur des problèmes en Iran. Pour répondre à votre question, la principale décision économique que l'Iran paye aujourd'hui, c'est la nationalisation. Le gouvernement iranien de l'époque décide, alors pour un certain nombre de raisons, à mon avis, il y a le côté tiers-mondiste, gauche populiste, etc., est très puissant en Iran à l'époque. Donc l'idée qu'aussi les méchants capitalistes iraniens ont été des traîtres et ont été trop liés à la famille des Pahlavi, il y a toute cette idée. Donc effectivement, l'Iran prend la décision de quasiment tout nationaliser. On retrouve avec un système économique qui est le système aujourd'hui de l'Iran, avec effectivement 80%, on peut dire, de l'économie qui est aux mains de systèmes publics et parapublics. Il y a une autre décision importante, qui va se révéler importante, c'est que l'Iran la République islamique d'Iran crée, à côté du secteur public classique et du secteur privé, des institutions qui sont du secteur parapublic. Et dans ces institutions, il y a les fondations, qui sont les institutions à la fois qui ne payent pas d'impôts, qui sont contrôlées simplement par le guide, et puis également les activités économiques des pasdarans qui vont se développer, qui vont mettre dans le parapublic. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour répondre à votre question, c'est vraiment l'emprise à la fois de l'État sur l'économie iranienne, à 80%, et à la fois dans ce secteur public, on a quelque chose qui est pas très transparent avec un secteur parapublic.
Mais avec une vision quand même politique, parce que dans l'article justement que j'ai mentionné tout à l'heure, vous dites, je vous cite, « Les politiques monétaires et budgétaires mises en place depuis la Révolution ne sont pas de véritables politiques économiques, mais une stratégie visant à avantager tel ou tel groupe social. » Donc au fond, on n'est ni libéral, ni dirigiste, on est avant tout clientéliste. C'est ça la politique économique de l'Iran, et je vous donne la parole tout de suite.
Justement, il faut... Je l'ai écrit, donc je l'assume.
Ah, je vous cite. Hein.
Je l'assume, mais dans l'Iran, c'est plus compliqué que ça. En ce qui concerne, il faut reconnaître que cette modernisation, ces dépenses d'infrastructures, dans l'induction d'eau, comme on dit, l'électricité, l'éducation, les transports, ça a été fait. Moi, je l'ai étudié. Donc, l'Iran a énormément dépensé dans ces domaines-là, ce qui a permis cette modernisation de la société iranienne. Elle n'est pas venue de nulle part. Donc, l'Iran, c'est intéressant dans son cas. C'est une politique économique qui a un mélange de populisme, dans le bon sens du terme. Ils ont dépensé en infrastructures. Ils ont permis vraiment une modernisation du pays. D'un autre côté, il y a ce clientélisme. Il y a toujours, en quelque part, c'est intéressant de calculer un équilibre entre les deux. Entre ce clientélisme qui existe pour favoriser les bazaris, les pasdaran, d'autres groupes proches du régime, et quand même des choix budgétaires qui visaient à favoriser les dépenses d'infrastructures.
Ah, Zadeki, vous voulez réagir?
Oui, je voudrais juste, au début de la révolution, il s'agit bien sûr d'une politique de nationalisation, certes, mais surtout de la confiscation.
Il y a des expropriations.
Il y a des expropriations, et c'est pas l'État qui en a profité. Ce sont des fondations de toutes sortes, qui avaient été créées dès le début de la révolution, comme la Fondation des Déshérités, plus tard, la Fondation le Comité de l'Assistance de l'Imam, ou encore plus tard les gardiens de la révolution, parce que il y a un certain nombre de ces confiscations, de ces biens confisqués justement des industriels iraniens qui effectivement avaient prospéré sous le Shah, mais qui ont été obligés soit de quitter le pays, soit ont été confisqués. Ça, c'est un fait. Donc ça n'a pas été nationalisé, donc c'est vraiment ça a été donné, si vous voulez, en cadeau à ces fondations qui d'ailleurs
mais qui
ne payent pas
d'impôts,
qui sont des fondations c'est-à-dire aller voir à qui profite la richesse de la Fondation des Déshérités, de la Fondation des Gardiens de la Révolution et autres.
Je sais pas.
À des personnes, bien évidemment, parce qu'il y a assez souvent, par exemple, il y a la Fondation des Martyrs de la Révolution qui a été censée aider les familles des martyrs de la guerre Iran-Irak ou des martyrs de la Révolution, et leurs familles ne cessent de manifester pour dire mais on n'a pas reçu grand-chose. Donc effectivement, à cela s'ajoute, et ça depuis surtout les dernières années, en tout cas les affaires ont été dévoilées de corruption, et quand je dis corruption, c'est des milliards et des milliards de dollars de l'argent de pétrole. Il n'y a pas un jour où dans un journal iranien, on ne lit pas une nouvelle affaire.
Justement, sur le pétrole, et je vous donne la parole Thierry Coville, mais sur le pétrole, peut-être rappeler en quelques mots qui tient aujourd'hui le pétrole, et une fois encore, faisons l'exercice de revenir il y a 40 ans, en 1979. Regardons comment, à qui profitait-il d'une certaine manière le pétrole en 79, et qu'est-ce qui a changé dans la manière justement de redistribuer cette manne pétrolière à l'époque?
Écoutez, au début de la révolution, l'Iran rentre, ne l'oublions pas, assez rapidement dans la guerre contre l'Irak dès septembre 1980, à peine un an et demi après la victoire de la révolution. Là, il y a le gouvernement de M. Mirhossein Moussavi, appartenant à la gauche islamique, qui arrive au pouvoir et qui gère l'économie de façon rationnée. Il y a un rationnement notamment, si vous voulez, par exemple, des denrées alimentaires, etc. Là, il ne faut pas oublier que dans la décennie 1980, le baril de pétrole coûtait 8 dollars, hein, pas plus, 10 dollars. Donc, les revenus pétroliers de l'État iranien à l'époque étaient très, très bas par rapport à aujourd'hui.
Et on les met au service du conflit.
Mais les gens ne mouraient pas de faim et quand même, les gens arrivaient à se ravitailler.
On met cet argent au service de la guerre.
Au service de la guerre. Toute l'industrie a été tournée vers l'industrie de la guerre.
Thierry Coville.
Oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a eu, pour que ce soit clair, si vous voulez, il y a quand même un esprit de nationalisation, de développer le rôle de l'État. Tout le système bancaire est nationalisé. Beaucoup d'industries ont été nationalisées. Et il est vrai, comme l'a dit, mais c'est, si vous voulez, ce moment s'est mélangé. Il y a l'idée qu'il faut développer le rôle de l'État pour avoir une politique plus juste. Hein, c'est un peu, on va dire, une politique de gauche populiste. Mais il y a également derrière, il faut faire ça parce que ce secteur privé n'est pas légitime parce que justement, il a trop coopéré avec le régime précédent. Ce qui en plus n'est pas vrai. Quand on s'intéresse un petit peu à la vie de, bon, c'est pas le sujet de cette émission, mais ce qui est intéressant. Maintenant, il y a même une réévaluation de ça en Iran. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'ils avaient des vrais entrepreneurs avant la révolution et qu'ils auraient été le gouvernement. Bon, c'était une révolution, auraient été bien inspirés de leur laisser de diriger ces entreprises, et l'Iran s'en porterait beaucoup mieux. Donc ça, bon, mais ça, c'est comme dans toutes les révolutions. Et c'est vrai. Donc, mais pour être que les choses soient claires, je pense quand même, il y a un véritable État, donc, qui contrôle, c'est difficile, on sait pas trop, mais on va dire qu'il contrôle 50 à 60% de l'économie, avec, voilà, des entreprises nationalisées. À côté de ça, effectivement, on a les systèmes parapublics, où il y a ces fondations, où il y a ces entreprises contrôlées par les passes d'Aran, qui, effectivement, dans ces cas-là, comme c'est pas transparent, tout est possible. Et Azadeh a raison. Dans ce secteur parapublic, il y a énormément de corruption. D'un autre côté, il faut peut-être être clair. Quand on regarde le classement de Doing Business de la Banque mondiale, hein, vous savez, c'est sur l'attractivité des environnements dans le monde. Bon, l'Iran est en milieu de tableau, si vous voulez. Alors, je dirais, l'Iran est pas en bonne compagnie. Il est avec le Brésil. Alors, vous allez me dire, le Brésil, en termes de corruption, effectivement, c'est connu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Iran n'est pas le dernier de la liste. Et ce qui est intéressant et ce qui est difficile d'expliquer quand on est économiste, c'est que ça, ce discours-là, ce que je vous dis là, c'est les Iraniens, ils écoutent pas quand on leur dit ça. Ils disent « mais non, ces chiffres sont faux, c'est le gouvernement qui les donne ». C'est quand même les chiffres de la Banque mondiale. Donc ce que je veux dire par là, il y a vraiment un problème de perception, mais il n'y a pas qu'en Iran. Hein. Il y a une perception globalement de l'ensemble de la population iranienne que le système économique et politique n'est pas juste et que ces institutions travaillent pour...
On parlait du pétrole quand même à l'instant, mais si on regarde les choses sur le pétrole, la région où il y a beaucoup de pétrole, c'est notamment la province du Khuzestan, qui est vraiment au sud-ouest du pays, aux confins de l'Irak et du Golfe Persique, et c'est la région où les gens sont les plus pauvres. Donc là, il y a bien quand même un moment où c'est pas seulement de la perception, c'est là où les richesses sont les plus importantes. Et les populations qui vivent, visiblement, n'en profitent pas. Azadeh Kian, je vous rends la parole.
Écoutez, moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de terrain dans ce pays, dans des différentes provinces, y compris Sistan-Baloutchistan, y compris des provinces, si vous voulez...
Relativement éloignées de Téhéran,
très même éloignées. Je me rappelle très bien, je travaillais avec le Centre de statistiques d'Iran pour ces enquêtes nationales. Donc, l'une des questions qu'on posait à ces populations, c'était ce qu'ils mangent. Et je vous assure que dans beaucoup de cas, on nous disait que du pain, et ça, c'est parce que la farine est subventionnée. Donc, la pauvreté, après, c'est vrai que ces gens-là étaient aussi pauvres avant la révolution, mais les gens ont fait la révolution, ont fait la guerre, ont participé à la guerre, effectivement, pour avoir aussi une vie meilleure. Donc, la pauvreté en Iran est une réalité. Le chef de comité de l'assistance de l'imam a annoncé, qui est un conservateur, a annoncé il y a 2-3 ans de ça, on a en Iran 3,5 millions de chefesses de ménage qui sont parmi les plus pauvres de ce pays. La pauvreté est une réalité. Il faut aller voir les gens qui sont pauvres et qui n'arrivent pas. Et surtout aujourd'hui avec 50% d'inflation, et là c'est aussi les chiffres de centre de statistiques d'Iran, il faut être très riche pour pouvoir continuer à vivre comme on vivait auparavant. Et ça, ce sont des politiques économiques qui ont été réorientées dès le début de la révolution vers le secteur de redistribution pour plaire aux bazaris. Pourquoi ? Parce que l'alliance mosquée-bazar est une alliance historique en Iran, d'une part. D'autre part, ce sont les bazaris qui ont payé les frais, les coûts
qui de sont la les révolution.
Bazaris les commerçants de bazar, les grands commerçants du bazar de Téhéran, c'est-à-dire ce qui était le centre, si vous voulez, commercial du pays à l'époque du Shah, et qui sont très proches, c'est-à-dire qu'en termes termes d'alliance familiale, ils se marient entre les religieux et les bazaris. Donc effectivement, c'est une politique économique orienté vers le secteur de redistribution, alors que le Shah d'Iran a, à partir de 73, le quadruplement du prix du pétrole, a mis en place une réelle politique d'industrialisation du pays.
Thierry Coville, encore un mot, non. Et puis ensuite on passe
non,
aux
non,
sanctions.
Non, mais je veux dire, si on regarde les dépenses de l'État pour répondre aux questions, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent du pétrole? C'est pour ça que l'Iran, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il y a de la corruption, il y a du clientélisme, c'est une réalité, mais il n'y a pas que ça. Je vous dis, hein, on regarde les principales dépenses de l'État. Je pense que il y a des États où il y a beaucoup plus de clientélisme et de corruption que l'Iran. L'Iran a dépensé massivement dans les infrastructures de transport, d'électricité, d'adduction d'eau, dans les écarts de pauvreté qu'il y avait dans les grandes villes avant. Vous avez des petites villes moyennes en Iran, vous avez quand même des infrastructures, vous avez une modernisation, les dépenses d'éducation. Ils auraient pu mieux faire, mais on peut pas non plus. Non, je veux dire, pour répondre à vos questions, pas quand même. Écarter tout ça. Il y a de la corruption, mais il n'y a pas eu que ça depuis la Révolution.
Vous parlez de l'eau, par exemple. C'est un sujet qu'on va aborder parce qu'il y a une situation de pénurie qui est absolument terrible. Et là, peut-être que l'État, précisément, n'a pas bien fait les choses et a effectivement des choses à se reprocher. Mais on va y revenir. Comme je le disais, on va évoquer la question des sanctions parce que c'est très important. Il y a quelques jours, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont annoncé la mise en place d'un mécanisme de contournement des sanctions. L'Europe l'avait annoncé dès l'annonce de retrait de l'accord sur le nucléaire de Donald Trump. Cet instrument s'appelle l'INSTEX. Je vous propose d'écouter les ministres des Affaires étrangères français et allemands.
Cette société vise à permettre aux entreprises européennes qui le souhaitent de poursuivre un commerce licite avec l'Iran, en particulier dans les domaines de la santé et de l'agroalimentaire, ces secteurs de première nécessité pour la population iranienne.
Cela va permettre à l'Iran de reconnaître le fait que nous accomplissons nos devoirs, maintenant à l'Iran d'accomplir aussi les siens, pour rester dans cet accord et pour agir selon cet accord.
Voilà, donc Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas, ministre des Affaires étrangères français et allemand. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de contournement? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Commencez avec vous, Thierry Coville.
Oui, enfin, c'est assez simple. C'est un mécanisme de compensation, de troc. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'Iran aura un compte dans l'Union européenne. Donc, on va dire un compte bancaire. Donc, s'ils exportent dans l'Union européenne, ce compte sera crédité. Donc, ils pourront importer en utilisant ce compte de l'Union européenne. L'idée de ce système...
Et on va pouvoir échanger n'importe quoi?
Voilà, exactement. Alors, ça, c'est
le problème, la
question déjà, c'est qu'on n'a pas besoin des banques. Comme vous le savez, un des gros problèmes avec l'Iran, c'est que la plupart des grandes banques refusent de commercer avec l'Iran. Donc, l'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin des banques pour commercer avec l'Iran. La question qui va se poser, c'est qui va l'utiliser? Moi, je pense que les grosses entreprises comme Total, elles ont toujours peur d'acheter du pétrole iranien.
Et donc, c'est évidemment l'essentiel quand même pour l'Iran de pouvoir vendre son pétrole. Donc, est-ce qu'il faut comprendre, Azadeh Kian, que finalement, il ne sert à rien ce dispositif, ou pas grand-chose?
Il ne sert pas à grand-chose, c'est symbolique, mais il y a des listes de produits quand même qui ont été fournies par l'Union européenne. On ne peut pas non plus à exporter n'importe quoi vers l'Iran. Il y a plusieurs phases. Première phase serait plutôt les produits, par exemple les médicaments surtout contre le cancer et un certain nombre d'équipements par exemple médicaux, qui manquent en Iran.
Et quoi, donc, ça veut dire que c'est un dispositif qui en réalité va aider à faire de l'aide humanitaire, va permettre de faire de l'aide
vraiment,
humanitaire?
Vraiment, la première phase, c'est plutôt l'aide humanitaire. C'est comme ça, effectivement, que je le lis. Et que de toute façon, ça va peut-être aussi être utile pour les petites et les moyennes entreprises françaises, mais certainement pas aux grandes entreprises qui n'iront pas. Et que de toute façon, le volume des échanges ne sera pas très important, ça on le sait. Mais ça, symboliquement, c'est important parce que ça veut dire que l'Europe est en train d'aller à l'encontre de la décision unilatérale de Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire. Voilà, on en est là, mais on sait aussi que les Européens ont demandé encore hier à l'Iran d'arrêter le programme de missiles balistiques, arrêter d'intervenir.
Mais il faut rappeler qu'il y a eu un essai qui a été fait au moment justement
encore récemment, des provocations, et donc tout ça, et donc on a bien vu Arachi. D'ailleurs, le vice-ministre des Affaires étrangères est à Paris actuellement pour discuter effectivement de tout ça, mais je ne pense pas que les Iraniens accepteraient facilement de mettre fin à leur programme balistique en contrepartie de recevoir quelques médicaments.
Thierry Coville, c'est le principal problème. Si effectivement l'Iran ne tire pas suffisamment de bénéfices économiques de ce dispositif, le risque c'est qu'elle décide finalement de se de retirer, de ne plus respecter ses engagements vis-à-vis de ce
tout à fait,
cet accord. C'est un risque qui est réel.
Oui, c'est un risque réel, parce que si on se met du côté iranien, du fait à cause du début des sanctions, leurs exportations de pétrole sont passées de 2,3 millions de barils par jour, actuellement 1,3 million de barils par jour. Donc ils ont perdu 1 million de barils par jour, donc c'est à peu près, on va dire, je pense 40% de leurs exportations. Les exportations de pétrole, on en parlait tout à l'heure, c'est 80% des recettes en devises en Iran. Donc les Européens mettent en place ce système, mais cet effondrement des exportations de pétrole en Iran, il conduit à une baisse des recettes en devises, il conduit à une baisse des recettes de l'État, ça nourrit cette inflation qui atteint maintenant 35% en Iran, donc le système européen ne répond pas du tout à ce problème-là. Donc c'est là on va voir, alors je pense que d'un côté, c'est intéressant ce qui se passe en Iran, les modérés disent, regardez les Européens politiquement, exactement ce que vient de dire Azadeh, ils sont avec nous, ils osent braver les États-Unis. Je pense que ce qui s'est passé, c'est surtout politique. Les modérés disent politiquement, dans leur lutte avec les durs en Iran, regardez, on a le soutien, entre guillemets, politique de l'Europe. Mais les durs, et ils ont, malheureusement, les durs ont raison, ils disent, ok, mais c'est un cache-misère, ce que font les Européens, c'est rien du tout, et on continue dans cette situation économique catastrophique, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, ils disent, eux, sortons de l'accord, c'est une plaisanterie.
Et sur le plan vraiment purement économique, qu'est-ce que le gouvernement iranien a fait pour essayer d'anticiper les effets de ce retour des sanctions américaines? Oui, parce que là aussi, visiblement, il y a eu de grosses critiques vis-à-vis de ce qui a été opéré avec la fixation du taux de change entre le rial et le dollar, etc., qui a engendré de l'inflation, etc. Non, mais c'est une réalité. Vous levez les yeux au ciel directement.
Non, mais je veux dire, c'est assez facile.
Je décris ce qui s'est passé.
Non, mais en Iran, effectivement, il y a beaucoup de critiques sur la situation économique est catastrophique, dans le sens l'inflation, il faut le dire aux gens, elle était à moins de 10% au début 2018. Maintenant, on est à 35% déjà les
46
chiffres d'octobre.
46 selon les chiffres de centre de statistique d'Iran.
C'est la Banque centrale. Non, mais c'est dit que ce soit 30 ou la Banque centrale d'Iran.
Elle a augmenté.
Voilà, elle a augmenté. Mais c'est énorme, 35%. Je veux dire par là. Et la monnaie s'est effondrée. C'est le taux de change. Le dollar était à 4000 toumans. Je veux dire, il y a quelques mois, maintenant, c'est à 12 000 toumans sur le marché parallèle.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs, alors effectivement, du gouvernement iranien, qui, par ailleurs, a limogé plusieurs de ses ministres de l'économie pendant l'été?
Prenez n'importe quel pays. N'importe quel pays. Regardez la France. On nous prive d'un coup, je viens de dire. Là, c'est quand même 20% de leurs recettes budgétaires. On les a privés de 20% de leurs recettes budgétaires. On les a privés de 40% de leurs recettes en devises. Mais il y a forcément un choc macroéconomique. Donc, il y a des erreurs. Et effectivement, le gouverneur de la Banque centrale a été remplacé en Iran. Le ministre de l'économie a été remplacé.
Deux fois.
Les gens sont furieux. Il y a des erreurs. D'accord, mais moi, franchement, même la France, vous croyez qu'on aurait mieux fait qu'eux? Je veux dire, par là, c'est facile de critiquer le gouvernement iranien. Et ce que fait tout le monde en Iran actuellement, moi, je dis que le choc macroéconomique, c'est quand même l'attitude des États-Unis d'abord, qui sortent de cet accord sans légitimité et qui mettent une pression économique maximale sur l'Iran. C'est difficile de la contrer.
Personne ne dit le contraire. Azadeh Kehan, sur la politique conduite par le gouvernement, est-ce qu'elle a ou non fait des erreurs en anticipant mal ou non le retour des sanctions? Et puis on va essayer ensuite de faire peut-être un bilan plus général de l'action économique de Rouhani depuis son arrivée au pouvoir. Mais commençons d'abord sur la mauvaise peut-être anticipation, mauvaise réaction du gouvernement iranien sur les sanctions.
Oui, ça c'est évident. D'ailleurs, les changements des directeurs et des ministres le montrent effectivement, parce que il faut savoir aussi que effectivement les recettes budgétaires de l'Iran ont beaucoup baissé du fait des sanctions contre le pétrole, etc. Mais en même temps, si vous regardez quels secteurs sont privilégiés par rapport à d'autres, c'est le secteur de la défense en Iran, dont le budget a augmenté, par exemple, ces derniers temps. C'est pas le secteur d'éducation, c'est pas les secteurs qui profitent, ou de santé, par exemple. Le ministre de la Santé iranien aussi a été démis démissionnaire parce qu'ils n'avaient pas assez de budget pour améliorer la situation sanitaire du pays. Ça, ce sont des réalités. Alors que, encore récemment, le budget du ministère de la Défense et de, c'est-à-dire des gardiens de la Révolution, etc., aussi a beaucoup augmenté. Donc, déjà, le choix, le choix du gouvernement. Le budget des écoles théologiques ont énormément augmenté, ont été multipliés par 3. C'est incroyable. Alors que dans les écoles, dans beaucoup d'écoles en Iran, quand il fait l'hiver et pendant l'hiver, il fait froid et on n'a pas les moyens de se chauffer.
Ça, c'est le fait du président Hassan Rouhani.
C'est l'effet de l'ensemble de l'establishment. Mais Hassan Rouhani, on le sait, ne fait pas le poids. Le président ne fait pas le poids et est obligé de toute façon de présenter un budget qui satisfasse à la fois les écoles théologiques, c'est-à-dire aussi M. Khamenei, le guide, qui satisfasse les gardiens de la Révolution et j'en passe et d'autres. Et en dernier ressort, s'il en reste, ça sera redistribué dans les secteurs qui profitent aux Iraniens, comme l'éducation ou la santé. C'est ça la réalité. Oui, il y a une mauvaise gestion de l'économie et qui aussi a des conséquences. Après, avec les sanctions, ça s'est aggravé. La sanction a aggravé sous Ahmadinejad jusqu'en 2012. Le prix de baril de pétrole était coûté 100 dollars. Les revenus pétroliers de l'Iran n'ont jamais été aussi importants que sous Ahmadinejad. Mais c'est une politique populiste qu'il a mis en place et qui a abouti à un taux d'inflation très, très important.
Qu'on paye d'ailleurs aujourd'hui, parce que quand on regarde par exemple le secteur bancaire aujourd'hui, Thierry Coville, on voit qu'il est extrêmement fragilisé. Il y a une commission économique du Parlement iranien, c'était il y a quelques mois, qui avait sorti un rapport qui évoquait un montant de 27 milliards de dollars de prêts qui font l'objet aujourd'hui de défauts de paiement. Et ça remonte précisément à la période d'Ahmadinejad, où les banques avaient énormément prêté. C'est effectivement, le pétrole était très haut à l'époque, donc on avait largement prêté, sauf qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus rembourser. Sur Thierry Coville, le bilan un peu général d'Hassan Rouhani. Alors évidemment, Azadeh Kian nous dit il fait ce qu'il peut, il est extrêmement contraint, et ça, d'une certaine manière, quand on vote un budget dans n'importe quel pays, on est extrêmement contraint. Mais son bilan, j'allais dire, un peu personnel. D'abord, est-ce qu'il avait, lui, une stratégie pour essayer d'améliorer la situation économique du pays? Si oui, laquelle? Et quel bilan est-ce qu'on pourrait en tirer?
Oui, justement, on ne peut quand même pas reprocher à Hassan Rouhani ce qu'a fait Ahmadinejad. Je veux dire, là, c'est quand même... Justement, il aurait bien préféré que Ahmadinejad soit plus... gère mieux les revenus pétroliers et mettre plus d'argent de côté, etc. Pour répondre à votre question, l'objectif de Rouhani, c'était une ouverture économique de l'Iran. C'était de développer le secteur privé et il avait beaucoup axé sa politique économique sur la coercion nucléaire, avec l'idée que l'Iran allait s'ouvrir suite à la coercion nucléaire. Et effectivement, dans son programme, il y avait l'idée que l'Iran accueillerait des investissements étrangers. Alors, il avait fixé un objectif complètement, à mon avis, irréaliste, mais pour vous dire, c'était une politique, on va dire, de libéralisation classique, de développement du secteur privé, d'attirer les investissements étrangers pour que l'Iran, effectivement, se modernise, développe ses exportations manufacturières. Et ça commençait à marcher. Alors, on était loin de ces objectifs de 50 milliards de dollars d'investissements étrangers, mais ça commençait à marcher. Il y avait une reprise économique en 2016. L'Iran était le...
Oui, pays. Après l'accord, il y a après eu l'accord, une montée en puissance des investissements étrangers très importants.
L'investissement étranger, même s'il était faible, commençait à repartir. Oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que toute sa politique économique également est complètement cassée.
A été ruinée par
Effectivement, alors on peut l'accuser de... Mais si vous voulez, il avait quand même basé toute sa politique économique sur l'ouverture. Tout d'un coup, tous les groupes européens se sont retirés. L'investissement étranger est en chute libre. Donc il est obligé effectivement de changer complètement de cap. Et Azadeh a raison. Mais je pense que c'est un peu la force des choses. C'est d'arriver avec un... finalement redévelopper le rôle de l'État. L'Iran a l'impression qu'ils font face à une guerre économique, c'est pas hasard s'ils continuent à beaucoup dépenser dans le domaine de la défense, c'est pas simplement pour faire plaisir aux méchants passe-d'Aran. Il y a l'idée qu'ils nomment des ministres qui ont un passé un petit peu sécuritaire, il y a l'idée que faut quand même pas oublier que la stratégie américaine, ça reste quand même, enfin c'est quasiment officiel, un changement de régime, donc l'Iran a l'impression de faire face à une guerre économique.
Justement Azadeh Kian, parce que les mauvais choix économiques ont conduit, ou alors la conjoncture internationale a conduit effectivement à une situation socio-économique extrêmement délicate, à tel point que ces derniers mois, il y a eu énormément de contestations sociales. Je pense à décembre 2017, janvier 2018 notamment, mais en fait depuis, il y en a très très régulièrement un peu partout dans le pays. Quels sont les risques selon vous d'une crise sociale profonde qui entraînerait une crise politique et peut-être une chute du régime et qui d'une certaine manière ferait gagner Donald Trump qui, oui, vise en réalité un changement de régime? Est-ce que le risque est là?
En tout cas, le risque est là. D'ailleurs, on a bien vu. Alors, vous savez que on a eu en Iran déjà en 2009 un mouvement très important, le mouvement vert, mais il était constitué en particulier des classes moyennes, urbaines, instruites, etc.
Suite à la
fraude électorale massive commise pour faire réélire Ahmadinejad. Mais en décembre 2017, janvier 2018, les gens qui étaient dans la rue, c'était des classes populaires et classes moyennes dites inférieures, des jeunes issus de ces classes-là qui étaient les piliers du régime, qui ont soutenu le régime, qui ont fait souvent la guerre, en tout cas leurs pères l'ont fait, et qui se trouvent au chômage et qui se trouvent effectivement dans la pauvreté, etc. Donc c'est ça qui a beaucoup, beaucoup fait peur au régime islamique d'Iran. Si vous regardez le nombre des gens qui étaient dans la rue, il s'agissait de plus de 80% des villes de province. On s'était jamais vu ça, parce que vous savez, c'est surtout centralisé à Téhéran et dans des grandes villes, alors que cette fois-ci, c'était les classes populaires qui étaient dans la rue dans plus de 80 villes petites moyennes de l'Iran.
Et donc, le risque est là ou pas ?
Le risque est là. Le risque
est
là.
Une chute du régime.
Non, chute de régime, pas encore. Mm-hmm. N'allons pas si vite que ça. Le régime islamique d'Iran a perdu, à mon sens, sa légitimité. À mon avis, tout régime doit se rendre désirable pour être soutenu et pour rester en place. La répression ne suffit pas. Le régime iranien, jusque-là, à travers diverses politiques, des subventions, des aides de toutes sortes à la population démunie ou classe moyenne, etc., parvenait à se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, il n'a plus les moyens budgétaires déjà de le faire. Et effectivement, d'où aussi la mauvaise gestion de l'économie et d'où ces mécontentements sociaux très importants, très répandus. Donc, sauf qu'il n'y a pas d'alternative, à mon sens, à ce régime actuellement. Et les Iraniens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui constituent 70% quand même de la population qui a moins de 40 ans par rapport à ma génération. Nous, à l'époque, on savait qu'on voulait pas le régime du Shah, mais on savait pas ce qu'on voulait. Il y avait pas d'alternative politique pour nous encore. Aujourd'hui, les jeunes disent, on veut pas ce régime, certes, mais on veut pas n'importe quoi non plus. On veut pas le chaos. Regardez l'Afghanistan, regardez la Syrie, regardez l'Irak dans quel état il se trouvait. Et donc, pour le moment, le régime islamique profite de cette situation.
Thierry Covid, sur cette crise sociale et peut-être les conséquences politiques. Et ensuite, justement, je voudrais, parce qu'on parle toujours des grandes villes, et je voudrais qu'on essaye de s'en écarter un tout petit peu pour aller dans le monde rural. Mais d'abord,
Généralité, l'Iran est en récession, donc la croissance est négative. L'inflation, n'importe quel pays, l'inflation passe de 10 à 35%. Il y a une partie de la population qui suit plus. Il y a des ouvriers qui sont pas payés. Donc il y a énormément de tensions sociales chez les ouvriers, chez les instituteurs. Les gens sont pas payés, les retraités sont pas contents. Donc c'est ça. Donc si vous voulez, effectivement, il y a une énorme crise économique et sociale en Iran. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les gens, c'est presque scandaleux parce que c'est quand même une crise. L'Iran est un pays, faut bien comprendre. Il y avait des difficultés qui sont normales d'un pays émergent. Je dis pas que c'est bien, mais le chômage important, il y a 900 000 nouveaux diplômés en Iran chaque année déjà. Ils avaient déjà du mal à trouver du boulot avant. Il y a effectivement la corruption, mais je vous l'ai dit, elle est aggravée par le sentiment de perception. Et un système comme ça, qui se retrouve en plus à perdre tout d'un coup, vous voyez, un choc macroéconomique majeur, l'Iran est en une crise économique sociale profonde. Et là où je trouve que c'est la politique, on va dire américaine pour rester polie, elle est pas éthique, c'est que ces gens-là, comme l'a dit Azadeh, il y a une société civile moderne qui veut le changement en Iran, mais de manière pacifique, en allant voter. Et ils veulent pas ça, ils veulent pas le désordre. Il y a beaucoup de nationalisme en Iran, il y a la répression, hein, les manifestations ouvrières, elles sont réprimées. Donc, c'est, à mon avis, malheureux, enfin, la stratégie de régime, de régime change américaine, elle va pas marcher. Et malheureusement, on a la population iranienne qui fait les frais de cette politique, presque inhumaine des États-Unis.
Direction le monde rural, parce que depuis plusieurs années, l'Iran est en proie à une terrible sécheresse qui a d'ailleurs provoqué là aussi des heurts et des manifestations extrêmement régulièrement. On va s'intéresser justement à ce monde rural, à l'agriculture, et on va écouter d'abord peut-être un agriculteur iranien justement.
Aujourd'hui, pour pouvoir continuer à cultiver, nous devons pomper l'eau du puits. Ça coûte cher. Nous allons la chercher à 370 mètres de profondeur. Nous n'avons plus qu'un puits. Je le partage avec les autres agriculteurs. Avant, dans mes champs, j'avais 22 puits peu profonds, mais désormais, ils sont tous secs. Beaucoup d'agriculteurs ont dû abandonner. Ils ne pouvaient plus s'en sortir. Beaucoup de gens sont partis. Ils ont immigré vers les grandes villes les plus proches, comme Ispahan, mais certains sont même allés jusqu'à Qom et Téhéran.
Voilà, extrait de ce documentaire qui avait été diffusé sur Arte, l'Iran à court d'eau. Il y a quelques semaines, le vice-président iranien Issa Kalantri expliquait dans un entretien qu'aujourd'hui, le pays utilise plus de 100% de ses ressources en eau, que la situation pourrait s'aggraver considérablement dans les années à venir. D'ici 20-30 ans, nous pourrions perdre, disait-il, 70% de nos terres cultivées. Voilà ce qu'il a dit. Or, la terre, c'est quand même ce qui permet de faire vivre les gens. Qu'est-ce qui se passe dans les campagnes iraniennes, Azadeh Khan? Pourquoi l'agriculture est-elle à l'agonie? Est-ce qu'il faut là aussi pointer du doigt les sanctions américaines? Est-ce que le changement climatique est la raison principale? Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Il y a d'abord, pas les sanctions américaines, bien sûr. Les changements climatiques qui concernent l'ensemble des pays de la région, on le sait. Il y a une pénurie d'eau un peu partout. Mais en même temps, je dirais aussi la mauvaise gestion de l'eau. On voit, par exemple, le paysan qu'on entend, c'est issu de la région d'Ispahan, la région centrale de l'Iran, où je suis aussi originaire. Et il y a une pénurie d'eau dans cette région.
Depuis
longtemps, parce que c'est une région qui, effectivement, il faut creuser, ou alors il faut utiliser les ranats, c'est-à-dire qui sont
des canaux d'irrigation
très, très anciens. Or, ça coûte cher, c'est-à-dire que pour les maintenir, ça coûte très cher. Il n'y a plus de propriétaires terriens comme dans le temps pour maintenir les ranades ou les puits. Donc, ce sont les paysans qui ont la charge de ça. Et bien évidemment, ça coûte cher. Mais en même temps, une fois, on a vu dans la région d'Ispahan, toujours au centre du pays, par exemple, l'eau qui est, beaucoup d'eau évaporisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion, si vous voulez. Même quand il y a l'eau évaporisée, l'eau n'est pas réellement utilisée pour irriguer. Puis, on n'a pas d'irrigation par goutte comme il y en a par exemple un peu ailleurs.
Il y a un problème d'investissement dans les systèmes d'irrigation
gâchis. Il y a beaucoup de gâchis d'eau. L'eau qui sort du puits est gâchée en réalité. Il y a ça. À cela s'ajoute le fait que parfois le gouvernement ou les autorités locales décident de détourner l'eau d'une province vers une autre, d'une ville vers une autre, ce qui a, on l'a vu aussi, a créé des émeutes des paysans, par exemple, dans les régions qui sont en manque d'eau. Après, vous avez la région de Sistan-Baloutchistan, donc à l'est de l'Iran, ou Hormozgan, à l'est toujours, sud-est, qui voit les conséquences de la sécheresse. Moi, j'ai vu moi-même le désert qui a beaucoup avancé, et donc il n'y a plus d'agriculture.
Donc il y a un problème d'investissement dans les systèmes d'irrigation, il y a un problème de répartition des eaux, il y a effectivement des détournements de ressources hydriques très importantes. Par exemple, l'ancien président Rafsanjani a bâti une bonne partie de sa fortune sur le commerce de pistaches. Alors, il a fait en partie détourner, je crois, une rivière pour justement pouvoir irriguer ses champs. Donc c'est aussi ça. Donc on voit bien aussi là le clientélisme dont on parlait un petit peu qui apparaît aussi. Il y a un autre problème aussi qui est que c'est une zone où il y a énormément d'industries et que l'industrie a besoin d'eau, qu'on aurait pu mettre ces industries plutôt sur le littoral. Thierry Coville, là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de planification du secteur industriel?
Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Effectivement, du côté des ressources, il y a le changement climatique qui touche tous les pays. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'ils ont construit beaucoup trop de barrages.
Soit Ahmadinejad.
Soit Ahmadinejad. Et notamment, là, on retrouve le clientélisme, parce que beaucoup de ces entreprises qui ont bénéficié de ces contrats pour construire des barrages étaient des entreprises appartenant au Pas d'Aran. Donc, et ça a été même critiqué on voit la dualité du pouvoir en Iran par la ministre de l'Environnement il y a quelques temps. Autre problème, c'est la consommation excessive d'eau. Donc, il y a les habitudes culturelles, il y a une consommation énorme en Iran. Il y a également des choix. Alors, on revient à la question de la gestion. C'est là le discours qu'on entend en Iran actuellement. Est-ce que ça valait le coup de dépenser autant pour certaines productions agricoles avec l'idée d'être autosuffisant et de pas dépendre de l'extérieur? Maintenant, on se retrouve à consommer beaucoup trop d'eau pour produire des fruits, etc., des légumes qu'on exporte en plus. Donc il y a même l'idée, on entend en Iran souvent dans les colloques, etc., on est même en train d'exporter notre eau quelque part, alors qu'on est en situation de sécheresse. Donc il y a vraiment des problèmes de choix économiques. Et donc, effectivement, là, mais ça... On va dire
et de choix politiques sur Azadeh Kean, sur ce qu'elle soulevait tout à l'heure à propos du système d'irrigation. Il y a par exemple un projet qui devait être voté au Parlement récemment, qui n'a finalement pas été voté. Ça a d'ailleurs provoqué la démission d'une vingtaine de parlementaires de la région. En l'occurrence, c'est la région d'Ispahan. Donc on voit bien que là, c'est pas décisions politiques qui ne sont pas prises.
Oui, non, mais tout à fait. Mais si vous voulez, je pense qu'on est, si vous voulez, l'Iran a beaucoup de problèmes dont celui-là. Si vous voulez, il faut voir le climat actuel. Il y a l'idée actuellement, l'objectif du gouvernement iranien, c'est de tenir. Donc tous ces problèmes se surajoutent aux autres. Donc effectivement, on a une situation de tension majeure en Iran.
On va poursuivre en accueillant un nouvel invité. On va parler des travailleurs afghans qui commencent un peu à rentrer chez eux, parce que les Afghans, ça fait longtemps qu'ils viennent en Iran pour trouver un emploi. Et avec cette crise économique et sociale qu'on décrit avec vous, Azadeh Kean et Thierry Coville, évidemment, ils commencent à rentrer chez eux. On va retrouver Amir Amiri. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur attaché à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et vous avez soutenu une thèse à l'EHESS sur les dynamiques migratoires en Iran, et en particulier sur les travailleurs afghans. Alors justement, dans quelle proportion est-ce qu'on a effectivement ces retours de travailleurs afghans, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut corréler le retour des sanctions américaines avec ce mouvement de retour des Afghans chez eux? Est-ce que ce retour, il s'est accéléré avec l'annonce du retrait de l'accord sur le nucléaire, avec le retour des sanctions, ou est-ce que c'est pas aussi clair que ça, Amir Amiri?
Moi, à mon avis, c'est pas aussi clair que ça, parce que les vagues de repartiment et aussi le retour vers l'Afghanistan depuis, surtout les années 2000, ça existait toujours vers l'Afghanistan, tout en sachant que les vagues de va-et-venu entre l'Afghanistan et l'Iran en tant que deux pays limitrophes, toujours que ça existait. Donc, la migration, ça fait partie intégrante de la vie. Et aussi une stratégie de survie des Afghans depuis des années et des années, même avant la révolution. Mais de l'autre côté, c'est tout à fait vrai que depuis le retrait des Américains, ce retrait de l'accord sur le nucléaire, et aussi l'application des nouvelles sanctions. Oui, ces vagues de retour, ça a accentué.
Quand on regarde, Amir Amiri, les chiffres des autorités iraniennes, on nous dit que 57% des Afghans qui sont rentrés chez eux l'ont été par décision des autorités, contre 43% de retour de plein gré. On les renvoie chez eux uniquement pour des raisons économiques, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose?
À mon avis, il faut décomposer ces chiffres, vraiment, parce que les rapports et statistiques publiés sur le retour et sur le rapatriement, notamment ces derniers rapports que ça fait des bruits aussi, selon l'Organisation internationale pour les migrants. En fait, d'un côté, c'est vraiment tout à fait à cette crise économique actuelle en Iran, que même la population iranienne aussi subit. Je pense que vos invités aussi bien expliqué tout ça. Et de l'autre côté, oui, ça touche effectivement les travailleurs, aussi les immigrés afghans qui sont immigrés en Iran, justement en quête de trouver un emploi ou une meilleure vie.
Je vais vous poser la question plus directement, Amir Amiri. Est-ce qu'aujourd'hui, on renvoie des Afghans chez eux parce qu'on considère qu'ils sont en concurrence avec des travailleurs iraniens et qu'en période de crise économique comme aujourd'hui, eh bien, vaut mieux les renvoyer chez eux?
Sur statistiques d'expulsion, en fait, il faut vraiment, ça explique pas ou c'est simplement, à mon avis, en fait, les vagues d'expulsion, toujours ça aussi existait, surtout à partir de 2002, aussi 2003, là où le gouvernement iranien a commencé des plans de recensement, aussi l'uralisation en fait des immigrés afghans en fait sur le territoire iranien. Du coup, par conséquent, oui, il y avait des vagues d'expulsion en fait plutôt par des mesures de sécurité que vraiment par raison économique en fait.
Dans quel secteur ils travaillent ces travailleurs afghans?
En fait, en général, le secteur de bâtiment, bâtiment toujours, c'est en majorité. Après, c'est l'agriculture et aussi d'autres secteurs industriels, mais en tant que main d'œuvre, en fait.
Et ils sont déclarés ou est-ce qu'ils sont souvent embauchés illégalement?
Non, pas vraiment déclarés, parce que, en fait, la liste de métiers, en fait, c'est très limité. La liste de métiers ouverts aux Afghans, plutôt ils sont clandestins. Et justement, les statistiques des immigrés et aussi des détenteurs d'une carte de séjour légale sur le territoire iranien, c'est vraiment très limité. C'est à l'entour de 1 million, mais le reste, vraiment, ils sont des clandestins.
Et quand ils viennent seuls ou ils viennent en famille?
En fait, la migration des Afghans vers l'Iran, c'est plutôt très sélective. En fait, plutôt des jeunes, hommes, moins qualifiés, en fait. Parce que le reste, les diplômés, les plus qualifiés, plus souvent, ils prennent le chemin de l'Europe ou aussi ailleurs.
Je vais rester avec nous. Je voudrais faire réagir nos invités Azadeh Kian et Thierry Coville sur ces, peut-être sur ces flux migratoires qui sont générés par cette crise économique et sociale en Iran. Azadeh Kian, Thierry Coville.
Oui, bien évidemment, parce que les Afghans eux-mêmes disent que avec la baisse de la valeur de rial, la monnaie iranienne, ça vaut plus le coup de venir travailler en Iran. Effectivement, mais en même temps, ça c'est sur le plan économique, ils ont raison de quitter le pays, sauf qu'en Afghanistan, la situation est aussi encore chaotique et la crise très importante. Donc, il faut être vraiment obligé de partir, je pense, de l'Iran, parce que l'Iran, à côté de l'Afghanistan, c'est vraiment un havre de paix. Mais en même temps, les Afghans ont toujours été considérés par les gouvernements successifs, y compris réformateurs, comme les boucs émissaires. C'est-à-dire que, je me rappelle, par exemple, c'est très choquant, mais ces Afghans, comme M. Amiri l'a bien expliqué, travaillent dans les secteurs de construction, agriculture, industrie, où les Iraniens eux-mêmes n'accepteraient jamais de subir ces conditions de travail. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a le taux de chômage est élevé, par exemple, les gouvernements successifs mettaient à l'index les ouvriers afghans ou les 2 millions d'Afghans qui étaient en Iran. Ce qui fait que, d'un côté, moi je suis en contact avec, par exemple, des féministes afghanes, par exemple, dont beaucoup ont vécu en Iran, sont allés à l'école en Iran, voire à l'université en Iran, sont retournés chez elles avec un sentiment assez paradoxal. C'est-à-dire que d'une part, elles disent c'est vrai que c'est grâce à l'Iran qu'on a pu accéder à l'université, voire même à devenir féministe du fait d'avoir côtoyé les féministes iraniennes. Mais en même temps, elles ont subi le racisme, il faut le dire, des Iraniens et le fait qu'elles étaient toujours, étaient toujours considérées en tant qu'Afghans comme des boucs émissaires. Par exemple, quand il y a eu des cas de viol, des cas de meurtre, c'est comme en France, c'est toujours les étrangers, bon, forcément les Afghans. Les enfants, les femmes iraniennes qui se marient avec des hommes afghans, il faut obtenir, bien sûr, l'autorisation du gouvernement, sinon leurs enfants ne sont pas reconnus, n'ont pas de carte d'identité, ne peuvent pas aller à l'école, sont obligés souvent de mendier dans les rues. Donc, effectivement, les Afghans ont subi vraiment aussi une situation très difficile. Je ne pense pas que M. Amiri dira le contraire.
Oui, c'est les autres victimes de cette crise économique et sociale. Thierry Coville.
Oui, mais de toute façon, quand vous avez en économie, on sait très bien que quand dans un pays, l'inflation passe de 10% on va dire 35%, 40%, quand la monnaie s'effondre, etc. Qui c'est qui en pâtit? C'est les plus faibles, c'est les plus, ceux qui n'ont pas de statut, ceux qui ne sont pas défendus. Donc, on voit le coût de ces sanctions quand même vis-à-vis de gens qui n'y sont pour rien. En plus, si vous voulez, faut savoir, c'est que les États-Unis mettent en plus une énorme pression sur le gouvernement afghan pour qu'il arrête de commercer avec l'Iran. On voit que, si vous voulez, il y a un côté, tout est fait pour, ce changement de régime et conduire à une crise économique et sociale en Iran sans considérer les coûts humains qui sont vraiment qui sont considérés comme pas importants par le gouvernement américain.
Amir Amiri, ça sera ma toute dernière question courte, parce que on arrive presque au terme de cette émission, mais et quid des Iraniens? Est-ce que eux aussi s'exilent plus massivement depuis l'émergence de cette crise économique et sociale, en tout cas depuis ces derniers mois?
Les Iraniens eux-mêmes ils prennent le chemin de migration, oui, tout à fait. Par exemple, les rapports, aussi les statistiques en Europe montrent très bien que, par exemple, les Iraniens, aussi, ils pensent de plus en plus, ils sont vraiment motivés pour quitter l'Iran. Et voilà, sous effet vraiment de l'impact de cette crise économique énorme à partir de l'application des sanctions américaines.
Merci beaucoup, Amir Amiri, d'avoir été avec nous ce matin.
Don't cut out my pen.
Et un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin. Thierry Coville, je rappellerai donc pour les auditeurs, pour aller plus loin dans les réflexions qu'on a conduites aujourd'hui, vous avez participé à ce numéro de la Revue internationale des études du développement, l'économie politique de la République d'Iran. Merci également à vous, Azadeh Kian, de nous avoir éclairé aujourd'hui de très nombreux ouvrages. Je vais mentionner celui qui va paraître dans quelques semaines. Femmes et pouvoir en islam, c'est chez Michel Long, donc c'est pas seulement question de l'Iran, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis également, autre article... des revendications nationalistes à une pluralité libre agissant. On va mettre évidemment toutes les références de ces ouvrages, de ces articles sur la page de Culture Monde. Merci infiniment à tous les deux. On va poursuivre notre série consacrée à l'Iran demain. Ça sera à 11h sur France Culture. Mais tout de suite, le tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises pour la gauche en Europe, même si actuellement les sondages ne lui sont guère favorables, Brice.
Oui, je le disais hier, 20%. 20%, c'est le score que les sondages attribuent aux partis de gauche aux prochaines élections européennes. De très rares exceptions près, ces trois pays du Sud, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, les partis de gauche en Europe ont été marginalisés par la montée d'une droite populiste. Mais voilà qu'un fanal vient de s'allumer dans un pays qu'on croyait définitivement acquis à l'une des droites les plus ténébreuses d'Europe, la Pologne. L'un des rares hommes politiques populaires du pays, Robert Biedroń, 42 ans, vient en effet de lancer son propre parti politique, Wiosna, le printemps. Alors Biedroń est un homme de gauche qui a su gérer son image avec beaucoup d'intelligence. Élu au Parlement en 2011 sous l'étiquette Palikot, de gauche, donc il a été le premier député polonais à assumer publiquement son homosexualité. Il est d'ailleurs le fondateur de la campagne contre l'homophobie en Pologne. En 2014, élu maire de Słupsk, une ville moyenne de Poméranie, il a aussitôt démissionné de son mandat de député pour se consacrer entièrement à la gestion de sa ville. Malgré la forte popularité que lui vaut sur place sa bonne gestion des affaires municipales, il annonce qu'il ne se représentera pas à la mairie. Il se sent en effet un destin national. Et il va tester sa popularité à travers toute la Pologne, en se rangeant dans le camp de ce qu'on appelle là-bas les symetryczni, les Polonais qui ne supportent plus l'alternance entre les deux partis qui dirigent la Pologne depuis plusieurs années. Droit et Justice, le parti actuellement au pouvoir à droite, et la plateforme civique qu'il a dirigé de 2007 à 2011 au centre. Au parti de Donald Tusk, la plateforme civique, donc, qui est libérale et pro-européen, il reproche d'être obsédé par les chiffres et de manquer de sens social. Quant à Droit et Justice, le parti ultra-conservateur, autoritaire et nationaliste, eurosceptique, dirigé dans l'ombre par Jarosław Kaczynski, il le qualifie, je cite, de « grotesque caricature de la démocratie avec des entorses à la Constitution, des limites posées aux droits des femmes, de la propagande en guise d'information ». Mais avec beaucoup d'habileté, Biedroń annonce conserver les mesures sociales adoptées par les conservateurs catholiques en faveur des familles et des retraités, tout en doublant les libéraux sur le plan sociétal. Biedroń a la réputation d'aborder les problèmes avec pragmatisme et sans a priori idéologique. Il s'est forgé une image de faiseur de consensus en même temps que de candidat anti-establishment, et cela lui vaut la faveur des jeunes électeurs diplômés. Donc dimanche dernier à Varsovie, Biedroń a évité durant tout son discours de se définir comme un homme de gauche, même si ses positions sur la laïcité, les droits des femmes à l'avortement et des homosexuels au mariage le situent clairement de ce côté de l'échiquier. Comme Emmanuel Macron, il préfère se définir et définir son mouvement comme progressiste et pro-européen. Il se place en outre dans le sillage de l'ancien maire de Gdansk, Paweł Adamowicz, récemment poignardé par un fanatique d'extrême droite.
Oui, dont vous nous aviez parlé il y a quelques jours. Oui. Mais que vise exactement ce nouveau venu qui n'avait même pas de parti il y a quelques jours?
Mais non. Il est clair que Robert Biedroń est engagé dans une stratégie de très longue haleine. Comme Emmanuel Macron, encore une fois, avec sa longue marche des militants de La République En Marche, elle passe cette marche par la rédaction d'un programme basé sur les suggestions des électeurs eux-mêmes recueillies lors d'une tournée à travers les villes de province. Le printemps, Wiosna devrait présenter une liste aux élections européennes où traditionnellement les villes votent davantage en Pologne que les villages et où les coûts de campagne ne sont pas bien élevés. Cet automne, le printemps sera présent aux élections parlementaires, probablement dans le cadre d'une alliance des forces centristes et de gauche contre Droit et Justice, le parti au pouvoir. Mais c'est manifestement les élections présidentielles de l'été 2020 que vise Biedroń. D'ici là, il devra avoir poursuivi sa conquête méthodique de l'électorat. Contrairement à une idée reçue, la Pologne a été gouvernée souvent par la gauche. En 1995, Aleksander Kwaśniewski remporta les élections présidentielles en battant à la surprise générale le héros de solidarité qu'on appelle en français Lech Walesa, mais Lech Wałęsa en polonais. Son parti, le SLD, l'Alliance de la gauche démocratique, faisait partie de la coalition au pouvoir en 1993. Et il fut réélu, Kwaśniewski, avec une majorité plus confortable encore 5 ans plus tard. De 2001 à 2005, la Pologne fut à nouveau gouvernée par une coalition de gauche comportant le SLD, l'Union travailliste et le Parti paysan. La disparition des partis de gauche au Sejm, le Parlement polonais, est due à la maladresse tactique. Aux élections de 2015, la coalition de gauche a raté de peu le seuil de 8% exigé pour obtenir des députés, parce qu'un nouveau parti de gauche, radical et écologiste, ensemble, en captant 3,5% des voix, a fait figure de diviseur. Eh bien, Robert Biedroń et son printemps peuvent s'attendre aux mêmes critiques. D'ores et déjà, pour certains dirigeants de gauche, il apparaît comme, je cite, « l'allié objectif des conservateurs de droit et justice ». On l'accuse d'aggraver l'émiettement de l'opposition et donc de favoriser la réélection probable des conservateurs.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Demain, toujours la gauche en Europe, Brice ?
Oui.
A priori, oui. Allez, rendez-vous demain. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.